Alors revenons donc, le premier thème qui apparaît, c'est la raison pour laquelle le Midrash veut nous opposer ce mérite d'Abraham d'avoir lui-même sanglé son âne au risque que lorsque Bilham, lui, va se préparer pour maudire Israël. Voilà le thème général que je voudrais analyser. C'est l'opposition d'identité entre Abraham et Bilham. Je ne sais pas si nous l'avons déjà étudié, mais vous me le direz. Est-ce que nous avons déjà étudié cela? Pourquoi le Midrash, pardon?
Pas ici.
Pas ici. Pourquoi le Midrash, habituellement, oppose Bilham à Abraham? Et pour cela, je voudrais m'appuyer, en vous donnant en tout cas au moins la référence, sur un enseignement du Maharal qui se trouve dans la Mishnah suivante. C'est le chapitre 5 des Pirkei Avot. Je vais vous dire le numéro de la Mishnah. Shiva Devarim. C'est une Mishnah qui nous enseigne qu'il y a une différence de destin, de destinée entre les descendants d'Abraham et les disciples de Bilham. Je vais vous donner tout de suite la référence quand même. Voilà. Non, c'est pas encore là.
Note de Sylvain, dans le Patar Eliaou, c'est la Mishnah Kaf Bet.
Mishnah 19 du 5e chapitre de Pirkei Avot, que je vous lis rapidement. Kolmi sheyeshbo shlosha dvarim halalu. Celui chez qui l'on trouve ces trois vertus que l'on va dire, hu mitalmidav shel Abraham, avinu, est parmi les disciples d'Abraham notre père. Ou shlosha dvarim acherim, celui chez qui se trouvent trois autres choses dont on va parler, hu mitalmidav shel Bilham harasha, est parmi les disciples de Bilham le méchant. Aïn tova, veruach nemucha venefesh shfela, un bon œil, l'humilité et la réserve. Mitalmidav shel Abraham Arinu, ce sont les disciples d'Abraham notre père, Aïn Rara, un mauvais œil, c'est-à-dire l'envie, Ruach Gvoa, l'orgueil, Venefesh Rechava, et l'insatiété, le fait de ne pas être rassasié, Mitalmidav shel Bilham Arasha, et parmi les disciples de Bilham, le méchant. Et alors, ensuite, qu'est-ce qui leur arrive aux uns et aux autres? Les disciples d'Abraham auront le monde à venir, les disciples de Bilham se perdront même dans ce monde-ci. Mais voilà pourquoi je vous cite cette Mishnah. C'est parce que il y a un étonnement, si vous voulez. On devrait s'attendre à ce que la tradition oppose Bilham, non pas à Abraham, mais à qui? À Moïse. Et on pourrait reconnaître cela avec ce que nous avons appris hier de la différence dans Hineni pour Abraham et Moïse. Pourquoi? Parce que Bilham est connu comme le prophète des nations. Alors qu'Abraham, c'est le père d'Israël. Et effectivement, nous avons des textes qui comparent Moïse à Bilham. Très paradoxalement, pour nous dire d'ailleurs que Bilham a une aussi grande capacité prophétique que Moïse, mais chez les nations. Velokam Navi od que Moshe b'Israël, et ne s'est pas encore levé un prophète comme Moïse en Israël. La Gemara tout de suite dit en Israël pas, mais chez les nations oui, et c'était Bilham. Tandis que Abraham est le fondateur de la nation. Alors je voudrais analyser cela aujourd'hui, mais j'ai tenu à traduire déjà le Midrash, nous le reprendrons demain plus en détail pour y recevoir les enseignements de détail. Mais d'abord ce premier thème, pourquoi c'est Bilham qui s'oppose à Abraham, ce couple Bilham-Abraham, de la même manière que nous aurons étudié Yosef le Pharaon, d'après le Midrash, et non pas Bilham-Moshe. Voici quel est le thème que je voudrais analyser, sur lequel nous allons un peu réfléchir. C'est le suivant. Bilham, dans l'ordre de l'identité des prophètes en dehors d'Israël, est un cas particulier. Ce n'est pas n'importe quel prophète des nations. C'est le porte-parole de l'ensemble des nations comme tel. Je m'explique. Au temps de la prophétie, il y avait pour chaque nation une capacité prophétique. Chaque génie de chaque société était donc capable de percevoir le sens prophétique de son histoire d'après la révélation du Créateur unique. La raison pour laquelle seule la prophétie d'Israël est restée, j'en parlerai tout à l'heure. Mais au temps prophétique, il y a eu capacité prophétique dans toutes les sociétés humaines. Nous sommes à l'intérieur, encore une fois, d'un monothéisme absolu. Si Dieu se révèle, il se révèle à l'échelle de l'universel. Et chaque manière d'être homme capte à sa manière. Et lorsque la révélation cesse, elle cesse à l'échelle universelle, et le contre-coup est la laïcisation de la culture, chaque société à sa manière. C'est un terme très général, enfin très vaste, je vous le signale pour bien situer le problème. L'idée qu'il y a eu expérience prophétique chez les nations nous est familière. Les prophètes des nations. Et, bien entendu, cette prophétie nous est connue comme prophétie impure, mais prophétie quand même. Elle passe à travers l'équation d'identité de chaque nation pour elle-même. Chaque peuple a son propre psychisme, sa propre psyché, comme il faudrait dire en grec, sa propre équation personnelle, et ce que le Dieu unique a à dévoiler à l'identité humaine, chaque manière d'être homme l'aperçut à sa manière, à travers le prisme de sa défigure, si j'ose dire. D'où les mythologies. Bien. Ceci aussi est un problème très vaste, mais enfin, je me borne à l'indiquer. Par le fait qu'entre l'identité d'Israël et la parole du Dieu unique, il n'y a pas de médiation, fût-ce l'équation personnelle hébraïque elle-même, qui est transparente, alors il n'y a pas de mythologie hébraïque. Mais vous voyez le danger de basculer dans cette espèce de réduction de la tradition hébraïque à ce qu'a été la tradition antique des autres sociétés et qui est le propre des historiens des religions, qui eux se gênent pas. Ils ne perçoivent pas ce fait d'histoire que la prophétie hébraïque est d'une nature autre et c'est pourquoi c'est elle qui a animé l'histoire universelle et non pas telle ou telle ou telle mythologie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous nous sommes à l'aise à la fin de cette longue expérience de 3600 ans pour voir qu'il en est bien ainsi. Que c'est pas du tout la saga scandinave, comme dirait Chouraki quand il parle de la saga nord-africaine. Vous voyez, c'est ch'touillotte là. C'est pas du tout la saga scandinave, donc, ou australienne, peu importe, qui a finalement secoué l'âme de l'humanité dans sa recherche de la vie spirituelle. C'est la prophétie hébraïque, que ce soit à travers telle ou telle déviation chrétienne ou islamique, c'est un autre problème, mais c'est bien la parole des prophètes hébreux qui est à l'échelle de l'universel et pas telle ou telle mythologie antique. Vous comprenez le problème qu'il y a là? Parce qu'il n'y a pas de médiation entre la parole de Dieu et l'oreille d'Israël, si j'ose dire. Shema Israël, parce que c'est lui seul qui a une oreille propre. Chez les autres, il y avait de la cire humaine. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le cérumen. Il y avait l'équation personnelle qui a gauchi. J'ai rien contre les gauchistes, mais en fait, qui a gauchi cette parole. Hakol kol Yaakov. La voix s'adresse à Jacob. Parce que Shema Israël. Parce que Jacob est capable d'écouter. Parce qu'Israël est capable d'écouter. Eh bien, donc chaque société avait sa capacité prophétique, et c'est-à-dire sa capacité de perception du sens prophétique de sa propre histoire. La Gemara nous raconte que lorsque Moïse est monté au Sinaï pour recevoir la Torah, il avait un certain nombre de questions préalables, dont celle-là. Il a demandé à Dieu que cette capacité prophétique des nations s'arrête. Et effectivement, à partir de ce temps-là, on voit que la capacité prophétique chez les nations, dans toutes les cultures des sociétés antiques, se dégrade, devient l'oracle magique, se dégrade et puis disparaît. Et en fin de compte, il n'y a plus de capacité prophétique qu'en Israël. C'est-à-dire la prière de Moïse a été entendue. Mais au temps de Moïse, il y avait aussi ce phénomène particulier de Bilam, porte-parole de l'humanité entière face à Israël, et pas seulement de telle ou telle société particulière. Est-ce que ce thème vous est familier? Non? Mais est-ce que c'est clair suffisamment? Bon, si c'est pas suffisamment clair, vous m'interrogez, mais je voudrais d'abord brosser un peu ce tableau. Il y a là plusieurs questions que je voudrais d'abord éclaircir en préalable pour arriver à restituer la personnalité de Bilam et pourquoi c'est à Abraham qui s'oppose et pas tellement à Moïse dans la typologie midrashique. Oh là, très bien, très bien. Parlez plus fort. Parlez plus fort, oui. Expliquez. Parlez plus fort et expliquez-vous bien, parce que là c'est un point important.
Les civilisations extrêmes orientales,
oui.
Disent que pour recevoir la parole, enfin, je ne sais pas comment il est formulé, il faut faire absolument le.
Oui, très bien. La révélation se fait au désert. Midbar d'Abar. On appelle vacuité, c'est ça
voilà.
Très bien, oui.
Par ailleurs, il prend bien soin de donner une identité très spécifique et le plus caractérisé possible aux individus.
Chez les extrêmes orientaux.
Non, dans la question de puisque chacun, c'est pas un individu indifférencié, au contraire.
Oui. Et où vous voyez la contradiction?
Bon, alors, justement, comment on peut faire abstraction de cette identité, puisque justement.
Écoutez, le mot de vie en hébreu est au pluriel, chayim. Chacun a sa vie unique, géniale pour elle-même. Chacune de ces vies peut être altérée. Il peut y avoir, si vous voulez, résurgence de l'animalité en moi qui va me donner une équation personnelle qui me vient du profond du corps, c'est-à-dire de la nature, et qui va donner un masque à ce visage unique et génial de chacun, sans médiation avec la source de l'être. Enfin, je m'exprime avec des mots figurés, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que, bien entendu, l'identité Israël comme telle n'a pas une équation spécifique à la manière des nations. Je vous ai cité une fois cette image du Zohar. À l'origine, le visage du premier homme était regardé dans un miroir. Le miroir a été brisé. Et le miroir a volé en éclats. Et chaque éclat du miroir reflète le visage du premier homme, mais dans une défilée. C'est ça l'égoïsme, les nations. L'unité humaine s'est brisée. Elle est devenue les différentes manières d'être d'égoïsme. Et par conséquent, les hommes, en dehors d'Israël, qui est le cas particulier dont je vais parler, ne voient le visage du premier homme qu'à travers l'équation personnelle de la défigure de l'éclat de miroir. Bon, c'est clair. Maintenant, ceci dit, le fait que le visage du premier homme, vu dans un miroir non éclaté, dans un miroir intact, pour chacun est une spécificité individuelle de bonne santé de visage intact, n'est pas contradictoire. Chaque hébreu est un hébreu, c'est-à-dire sans équation personnelle, mais chacun à sa manière. J'entends bien, au niveau du langage, il y a une difficulté. Un des noms de la Neshama, Michel Prince l'avait cité hier, c'est Yerida.
Pour que cette coupure ne soit pas brutale, c'est Yerida, qui est, si je ne me trompe pas, la caractéristique unique de chaque individu.
Qu'il représente. L'universel n'a éclaté réellement concrètement que dans l'identité hébraïque. Mais que chaque hébreu à l'échelle individuelle, tout en étant un hébreu dans cette définition et son génie propre, eh bien cela, c'est le fait par exemple qu'il y a 12 tribus en Israël, il y a 12 manières d'être Israël, chacune d'entre elles étant authentiquement Israël. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question, mais ça cherche un peu dans ce sens. Je dirais que je ne connais pas le résultat de cette affaire extrême orientale. Est-ce que ça mène à autre chose que la philosophie? Est-ce que ça mène vraiment au dévoilement prophétique? Je ne crois pas. J'ai l'impression qu'effectivement, cette affaire mène à la philosophie. Et nous retrouvons d'ailleurs la méthode cartésienne. Il faut faire table rase pour que la première vérité apparaisse. Je ne sais pas si j'ai parlé trop vite, mais vous voyez ce que je veux dire.
Disons qu'il y a des expériences quand même qui prouvent que ce n'est pas seulement que de la philosophie.
C'est pourquoi j'ai posé la question. Ouais. Mon expérience personnelle, d'après le peu que j'ai pu lire du résultat de ces assaises, c'est que c'est que de la philosophie. C'est de la philosophie, laissez-moi m'exprimer, c'est de la philosophie extrêmement riche d'affectivité. C'est de la philosophie extrêmement riche de ce qu'on appelle le mysticisme, mais qui, jugé en hébreu, ça veut dire le paganisme. Mais est-ce que c'est autre chose que de la philosophie? Ceux qui ont assisté à l'analyse de David Messas hier, vous rappelez qu'il a voulu situer la méthode du Rav Dessler sur laquelle il s'est appuyé, sur la méthode que j'emploie moi-même. La méthode que j'emploie moi-même et qui est dans le courant précisément de ce problème, c'est l'identification du message, de ce que dit le texte, dans l'histoire. Vous vous rappelez de ça, ce que je vous dis. Alors que, par exemple, la méthode du Moussard de Rav Dessler, c'est une intériorisation ahistorique. Hein? Mais est-ce que ça aboutit à autre chose que de la philosophie? C'est ça la différence. Je reprends ma relation à l'extrême-orient. Je cherche dans ma mémoire le nom du grand maître hindou contemporain que j'ai lu, que j'ai étudié, Sri Aurobindo. Okay? Bon, c'est pas une grande référence, c'est quand même une référence.
Oui, mais enfin, je pense que c'est pas.
Non, je vous dis très, très, très honnêtement, j'ai pas étudié ces textes dans leur langue originelle. Okay? Mais je me demande vraiment, je suis pas compétent sur ce point, mais je me demande vraiment si c'est autre chose que la philosophie. C'est-à-dire, si c'est autre chose que la manière dont le Bouddha est Socrate. C'est-à-dire que la parole de Dieu que je vais te transmettre, c'est en réalité l'écho de la mienne. C'est moi qui parle. C'est moi l'homme, ce Dieu qui parle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire ça, finalement, ça nous dirige vers une ascèse de la vie intérieure. Et donc, avec ce préalable indispensable de la vacuité pour acquérir, pour atteindre l'équanimité, par exemple, l'égalité d'humeur, donc le bonheur défini à la manière extrême-orientale, mais est-ce que ça nous explique notre histoire et notre destinée? Est-ce qu'il n'y a, ce qui est le propos de la prophétie hébraïque, est-ce qu'il n'y a pas là la mise entre parenthèses de l'histoire? Que précisément pour atteindre à cette expérience, il faut se retirer de l'histoire. Oui? Oui, oui, c'est bien la question. Mais est-ce que c'est pas cela précisément le refus de l'histoire, c'est-à-dire le refus du monde tel que le Créateur l'a créé? Pardon? Ah non, 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 c'est tout le contraire, c'est tout l'opposé. Pas du tout, ça vous imputez. Vous imputez pas du tout, vous parlez en juif. Vous imputez à l'expérience de la ascèse extrême-orientale votre expérience de juif. C'est-à-dire, il y a chez les juifs cette générosité dont vous donnez l'exemple. Ils sont comme nous? Non, ils sont pas comme nous. Vous comprenez? Vous parlez d'eux comme s'ils étaient vous. Non, ils ont leur expérience. Et ils ne s'en cachent pas. Leur objectif, c'est de défaire l'accouchement qui les a mis au monde. C'est de revenir avant le sein maternel. C'est de s'opposer au Créateur. Et c'est pourquoi je dis, est-ce que ça mène ailleurs qu'à une philosophie? Philosophie mystique, mais philosophie. Et je veux dire que finalement, l'homme qui aurait réussi cette ascèse dont vous parlez, à l'extrême oriental, n'entend pas la voix de Dieu. Il entend l'écho de son propre silence. Dieu ne parle pas à l'extrême oriental. Il ne parle qu'à l'hébreu. Il faut quand même revenir dans une cohérence simple. Vous vous rappelez à la Beth Yehoshua, qui a joué au petit gamin mal élevé, on m'en reverra jeudi soir s'il l'ose. Oui, oui, très bien. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qui dit que si aujourd'hui quelqu'un vient nous dire que Dieu lui a parlé, il faut l'envoyer chez le psychiatre. Ça, je vous l'ai dit 100 fois. Okay? Parce que nous ne sommes pas dans le temps. de la prophétie. Mais de quoi nous parlons? De l'expérience hébraïque. Nous, nous sommes les Juifs. Je pense que c'est clair. Il voulait dire, et d'ailleurs je lui expliquerai, je veux dire d'ailleurs qu'à part la forme de son athéisme agressif provocateur, je suis complètement d'accord avec lui sur le contenu de ce qu'il a dit. Là, il a parlé en hébreu. Il a parlé en tant qu'hébreu, vous comprenez. Il ne sait pas tellement bien parler français, je suppose. Ce n'est pas de sa faute. Mais c'est clair. La forme était, comment dire, gamine. Bon, c'est un problème. Alors, revenons à notre question. Pour cette question de la transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équation personnelle d'une manière d'être homme spécifique à la manière des nations, le français étant le français, l'anglais étant l'anglais, l'allemand étant l'allemand. Il y a une société humaine particulière dont la spécificité consiste à être d'emblée, sans médiation, sans, j'allais dire, sans génie culturel national dans le sens d'égoïsme, et d'être d'emblée à l'échelle universelle, et c'est cet homme-là qui s'appelle l'hébreu. C'est pourquoi Dieu s'adresse à lui en direct. Les autres écoutent aussi, mais par leur oreille. Et il en est résulté la mythologie. Qu'est-ce qu'il rencontre? Et ça, si certains d'entre vous ont fait des études de linguistique structuraliste, qu'est-ce qu'il rencontre de la sagesse impliquée par les mythes de telle ou telle nation? Leur identité propre. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la seule transmission qui se décrit à l'échelle universelle, c'est la Bible. Ce n'est pas pour rien, si vous voulez, que la seule sagesse de ce type qui est à l'échelle universelle, dans les religions universelles comme le christianisme ou l'islam, disons de prétention universelle, parce que je pense personnellement que seul un arabe ou ce qui va avec peut être authentiquement musulman, que seul un romain ou ce qui va avec peut être authentiquement chrétien. Quand un oriental est chrétien, c'est pas clair. Quand un occidental est musulman, c'est pas clair. Il y a quand même une typologie, mais c'est spécifique. Mais c'est de prétention universelle, soit ces religions qui se sont greffées sur la Bible des Hébreux. Je pense que c'est bien clair. Vous avez d'autres questions là-dessus? Bon. Alors donc, je reviens à l'analyse. Il y a eu expérience prophétique dans l'Antiquité, avant, jusqu'au temps de la sortie d'Égypte, de cette vraiment période privilégiée où le dévoilement s'est fait pendant 40 ans, une fois, en préfiguration de l'ultime avenir. Vous connaissez tous ces versets des prophètes. Ils nous disent que nous avons été appelés à une expérience de laboratoire en préfiguration de ce qui se passera à la fin des temps et qu'il ne faut pas perdre la mémoire pour savoir identifier quand ça recommencera. Et ça recommence. Et on ne sait pas identifier. Enfin, ça dépend qui. Vous connaissez ce psaume. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Bon. La demande de Moïse doit être expliquée. Pourquoi Moïse, avant d'accepter la Torah, je dis bien, avant d'accepter de recevoir la Torah, a demandé à Dieu, entre autres choses, premièrement cela, arrête la prophétie chez les nations. Qui propose une réponse? Si vous voulez, je peux vous donner la référence, c'est dans la Gemara de Brachot, page 7, il me semble, 7a. Si c'est 7, c'est 7a, à peu près vers le bas de la page. J'ai entendu la question. Pourquoi Moïse, avant d'accepter la Torah et d'engager l'histoire d'Israël dans le contrat de la Torah, dans l'alliance de la Torah, dans le pacte de la Torah, a demandé à Dieu que la prophétie continue à résider qu'en Israël? Et effectivement, et après le temps de Bilaam, il n'y a plus de prophétie chez les nations. Il y a cette espèce de rémanence de ce qui fut l'expérience prophétique des nations, et qui est devenu l'oracle, etc. Hein? Explique. C'est pas la réponse que je donnerai, mais explique ce que tu veux dire.
créer du vide.
Écoutez, je crois personnellement que le contenu de sagesse primordiale, primitive, de ces mythes anciens, si défigurés qu'ils soient, de toutes les sociétés païennes, si païennes qu'elles soient, c'est originellement la révélation de Hachem, le Dieu unique, telle qu'en fin de compte, elle a été captée, transmise, défigurée, à travers le psychisme particulier de telle ou telle société. Nous sommes des monothéismes conséquents. Il n'y a eu qu'une seule source à toutes les valeurs. Je pense que c'est clair. Mais pourquoi Moïse juge qu'il faut demander que ça cesse chez les autres? Pourquoi? Mais je pourrais objecter que ça les aiderait beaucoup de savoir que c'est celle-là qui est l'authentique, s'ils avaient dans leur capacité culturelle une expérience, comme ils l'ont eu, une expérience originelle. Je veux dire, ce qui est apparu à cette fin de révélation chez les nations, c'est la réaction philosophique ou mystique, ce qui revient au même, mais non pas religieuse vraiment. La réaction religieuse n'est que dans la lignée d'Israël, c'est-à-dire fidélité par la connaissance à ce qui a été une révélation prophétique. Alors que le philosophe croit en ce qu'il pense, et le mystique pense ce qu'il croit, ou l'inverse, peu importe. Enfin... Une manière de... C'est pourquoi je m'insurge contre cette demande de Moïse. Je veux dire comment les commentateurs de la Gemara ont posé la question. Et si quelqu'un décide de te faire un cadeau, pourquoi tu ne veux pas qu'il le fasse aussi aux autres? C'est Aïnara, ça. C'est avoir le mauvais œil. Que Moïse n'est pas gentil. Dieu lui fait un grand cadeau. C'est à toi que je vais donner la Torah. Alors il commence par dire, ah oui, mais à une condition, pas aux autres. Comprends pas. Pour ne pas? Ah, ça c'est paradoxal ce que vous dites, expliquez. Je comprends pas. Comment pour ne pas les décourager? Non, écoutez, je pourrais penser, par hypothèse, une situation ainsi décrite, qu'il y ait la prophétie à Israël, et que les nations sachent que la prophétie indifférenciée est universelle est à Israël, mais que chacune a la sienne pour lui, pour elle, et que les prophètes des nations sachent dire, vous savez, la prophétie du peuple de prêtres, ça c'est Israël, nous avons la nôtre, et c'est le même Dieu, au contraire, ça aurait arrangé l'histoire. J'aurais pu penser comme ça. Vous comprenez? Je peux vous le dire que dans cette formule, c'est le fait pour les nations de comprendre le sens prophétique de leur propre histoire dans l'histoire du monde. C'est-à-dire d'avoir pour chacun son espérance. Or, ce qui est arrivé, c'est que toutes les nations sont privées d'espérance. Ils n'ont pas l'expérience prophétique. Et par conséquent, ils n'ont qu'un ersatz d'espérance emprunté à Israël. Vous avez remarqué cela? Chaque fois que le temps de la désespérance arrive dans une culture donnée, les hommes s'accrochent à un juif. Que ce juif soit Freud, Marx, je ne sais pas moi, ou un... en général ce sont des juifs défroqués, je ne sais pas comment dire, mais alors le gros plan du Christ dont je vais parler demain soir, okay, vous voyez ce que je veux dire, okay, on s'accroche à l'espérance d'Israël, le salut vient des juifs.
Mais quand on a une certaine forme de vérité qui vient de prophétie,
pas tout à la fois, ok, nous,
on se permet de juger.
Et alors?
Peut-être pour empêcher le jugement approximatif des nations sur Israël, qu'on stoppe.
Mais non,
cette somme approximative de vérité.
Là encore, j'objecte. Les nations sauront qu'elles sont tous des fils, mais qu'il y a un fils aîné. C'est d'ailleurs un thème bien connu, que Israël est le fils aîné, mais les autres aussi sont des fils. Tiens. Et pourquoi les frères crucifient le fils aîné? Parce qu'ils ont peur que si lui seul soit le fils et qu'eux ne soient pas des fils. Alors ils sauront qu'ils sont aussi des fils. Au contraire, ça aurait pu tout arranger. Que les nations aient aussi leur capacité prophétique. Tout aurait été l'universel transfiguré. Alors qu'est-ce que pense Moïse? Et Dieu a accepté la demande de Moïse.
Quelle? Le fait que le témoin a été donné.
Le fait que
le témoin a été donné. À cause de ce fait, Moïse dit que tout serait la prophétie. Parce que jusqu'à la Torah, la prophétie, sinon, soit Adam, qui soit Abraham, qui soit les autres, c'était toujours oral.
C'était toujours
oral.
Oral. Mais la Torah aussi, c'était oral. Non, on l'a mise par écrit parce qu'on n'est pas capable de garder la mémoire. Mais l'essentiel de la Torah, c'est de rester oral. Sachez bien cela. La vraie Torah est orale. Quelle? Non, ce que je veux dire, pour répondre à votre question, c'est que... Mais ensuite, vous continuez votre raisonnement, vous n'avez pas fini. C'est que le fait que la Torah ait été mise par écrit, c'est secondaire. Quelle? Alors reprenez votre raisonnement. Vous avez répété la question, vous n'avez pas donné de réponse. Ken, quelqu'un a une réponse? Parce que c'est bientôt l'heure.
Ken. C'est la foi, c'est pour créer la foi qu'on voulait dans le désert, parce qu'il n'y a pas le contenu. C'était là, il n'y avait pas de contenu.
Mais il n'y a que celui qui a bu une fois qui sait ce que c'est qu'avoir soif.
Justement, c'est comme l'air de l'action. Comme le contenu de l'action, c'est l'action. C'est l'action.
Bon, et pourquoi leur enlever même ça?
Leur enlever cet accoutumement qui est un petit peu dévié de son sens à une unité.
Non, écoutez, il faut être optimiste. Et pourquoi les prophètes des nations n'auraient pas une fois la bonne foi de dire nous avons une parcelle de cette vérité centrale? Et d'ailleurs, ils le disent, mais ils n'y croient pas. Mais non, mais vous analysez encore les dimensions de la question. Je voudrais entendre la réponse. Ken? Non, écoutez, là vous êtes sur une question un peu à côté. Je veux dire ceci. À partir de Moïse, seul Israël est capable de la perception du sens prophétique de sa propre histoire et pas les nations. Mais pourquoi refuser aux nations cette capacité de la connaissance du sens prophétique de leur propre histoire? D'autant plus que par là, ils sauraient qu'elle se rattache à un ensemble unique dont le centre serait Israël. Et ça sera comme ça au temps messianique d'ailleurs. Pourquoi Moïse a eu cette, je mets ça entre guillemets, a eu cette méchanceté, cette avarice de dire à Dieu, d'accord, on va accepter ta Torah, mais une condition, arrête la prophétie chez les autres. Et Dieu a accepté. Ça, c'est étonnant. Vous savez que Moïse est l'homme le plus généreux que la terre ait connu. Un jour, peut-être, nous aurons un séminaire sur Moïse. Ve'arachmani nahagem. Ça veut dire, c'est Moïse qui a été l'homme qui a voulu sauver le monde entier. Alors, il a fait descendre la Torah sur terre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette non-générosité de demander comme clause pour qu'Israël ait la Torah? Que les nations n'aient plus leur expérience prophétique.
C'est une barrière.
Ça crée une barrière. Non, là, vous répétez ce qui a été dit d'une autre manière. Ken.
On parle de Jésus qui peut
passer sa propre expérience parmi les autres peuples. Mais ça aurait pu d'autant mieux passer si les autres peuples avaient déjà, avaient encore, d'ailleurs, puisqu'ils l'ont eu, avaient encore perception de quoi il s'agit. Dieu parle, et puis voilà ce qu'il dit à l'échelle total, en direct, à Israël, et voilà ce qu'en écho, en différé, il y a aussi pour les autres. Mais il n'y a plus rien pour les autres. Pardon? Bon, là vous parlez encore d'une autre question, mais j'ai pas encore... Non, après j'arriverai à Bilam, le cas particulier de la prophétie globale pour les nations. Jusqu'à là, nous étions sur un point près, là, d'une minute. C'est chaque nation avait son prophète. Bilam, c'est le prophète de toutes les nations ensemble, c'est un cas à part. Et je ne fais que commencer cette étude aujourd'hui, on va la reprendre demain, mais je voudrais quand même avancer. Voilà l'intention de Moïse. Israël commence son histoire dans un refus des autres nations, dans l'hostilité des autres nations et dans la rivalité des autres nations. Si Israël avait été accepté à la sortie d'Égypte, alors jamais Moïse n'aurait demandé cette demande. On entrait dans le monde messianique. Mais Israël, dans la sortie d'Égypte, est attaqué par une coalition de toutes les nations, dont Bilam va prendre la tête. Mais il y a Amalek qui arrive tout de suite. Tous les pays de la région se coalisent sous la direction de Moab. Balak est en roi de Moab et demande à Bilam, qui est ce prophète issu de Midian, le seul rival possible d'Israël, et qui a cette capacité globale de la prophétie pour s'opposer à l'Israël de la sortie d'Égypte. Tout cela de façon très accélérée. Israël sort à peine de l'esclavage d'Égypte. Il se constitue en nation. Il commence son histoire et tout de suite il est attaqué par une coalition universelle. Est-ce que vous entendez que nous vivons la même chose maintenant, okay? Et alors voilà le raisonnement de Moïse. Je vais essayer de l'éclairer a posteriori. Israël se constituant, émergeant dans l'histoire après la Galoute, nous vivons ça depuis une trentaine d'années à peine, okay? A vis-à-vis de lui toutes ces rivalités qui s'instaure contre Isaac, Ishmaël, contre Jacob, Ésaü. L'ensemble des 70 nations coalisées derrière Ésaü et Ishmaël contre Israël. C'est l'ONU actuelle. Je ne sais pas si vous voyez le tableau. Et avec un porte-parole de la propagande officielle anti-israélienne juive. C'est la même chose. Et vous voyez, avec ce qui s'est passé déjà au temps de... La propagande a été inventée par les nazis comme... ce qu'on appelle la propagande au niveau de la politique. L'agitprop, c'est les leçons que les marxistes ont pris des nazis, mais les anarchistes aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Israël, le peuple juif, l'identité juive, est l'objet des malédictions de Bilam. J'ai pas le temps aujourd'hui, mais demain je reprendrai ça. C'est exactement la propagande. Dire le mal d'eux. C'est ça, mot, dire. Okay? Et nous avons été victimes de cela. On est arrivé à faire croire à l'humanité entière que le juif, c'est le diable. C'est Bilam qui fait ça. On fait croire à l'humanité entière qu'Israël, c'est les nazis impérialistes, colonialistes, etc. C'est Bilam qui fait ça, et à l'échelle universelle. Et on fait avaler à tout le monde le contraire de la vérité comme la suprême vérité. Et Bilam est capable de ça. Bon, mais je reviendrai sur cette analyse demain. Le raisonnement de Moïse. Déjà, dans ce stade-là où sont les nations, sans la capacité de comprendre le sens prophétique de leur dossier contre Israël, c'est si difficile pour Israël. Alors si en plus il faut qu'ils comprennent, on est fichu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, les goïms ont des dossiers contre Israël. Ils sont de mauvaise foi, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Okay? La Torah nous raconte cette histoire, avec la rivalité Ishmaël contre Isaac, Ésaü, Moab, Amon, etc. Nous savons quelle est leur raison d'avoir tort. Eux ne le savent même pas. Et si déjà comme ça c'est si difficile, alors s'ils le savaient en plus, on serait perdus. Imaginez que les goïms s'opposent à Israël en connaissance de cause. Pour le moment, ils s'opposent sans connaissance de cause. Tu vas leur donner aussi ces arguments-là au nom de la Torah, dangereux. Alors Moïse a dit, on peut commencer cette histoire que si tu nous donnes au moins un petit handicap. C'est comme ça qu'on dit dans les courses à pied, okay? Enlève-leur la capacité prophétique. Parce qu'avec la capacité prophétique, ils vont nous avaler vivants. Vous comprenez ce que je veux dire? Si les chrétiens savaient ce qu'ils pouvaient dire contre les juifs, déjà comme ça, bon. Si les musulmans savaient, vous voyez, je vous fais peur. Ça existe, mais seuls les juifs savent. Enfin, ceux qui connaissent ce qu'il y a dans le texte. Alors, et si en plus ils le savaient, ça y est, c'est clair. Je ne sais pas comment je me suis sorti de raisonnement, mais voilà le raisonnement de Moïse. Et alors, il a dit à Dieu, voilà, comme ça. Déjà comme ça, c'est grave. Alors, si en plus tu relâches la prophétie, voilà, beau. On s'en sort plus rapide. Bien, alors on se revoit demain, parce que malheureusement... Ah, malheureusement.